potes, venez chez moi, y'a papa, aidez les potes, y'a papa, y'a papa. Il est parti, ça va être la mouse bing bang party. Aidez les filles, bijou chouchou, litigata, poupou zizi, mimi papa, y'a papa. On va se marrer, ça va être la mouse bing bang soirée. Le frigo, y a tout ce qu'il faut. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Buvez tous les machins, laissez-moi le porto. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Pour remplir le piano, je vais y prendre un bain, ça me fera du bien. Et gave les potes, hola, hola, voilà papa. Et l'idiote, toi dans de la voilà papa. Et dit Auguste, ne fais plus joujou avec le lustre. Et gave les potes, hola, hola, voilà papa. Et Mariotte, toi dans de la voilà papa. Et Cristobal, laisse ton ce service de cristal. Papa n'est pas seul, qui donc il amène? Cubu, licou, pou, i-o, i-a. C'est tonton Archibald, mémé, Philomène. Bijou, caillou, chou, genou, hibou. Je vais en prendre pour mon grade. Fini, rigolade, la la, quelle salade. Et des potes, visez papa, visez-moi ça. Comme il faut que trotte avec Diana, hola, hola. Tiens, v'la mémé, grimpez sur le dessus de la cheminée. Et des potes, hola, hola, voyez-moi ça. Comme elle gigote, hola, hola, on croirait pas qu'elle est vétuste. Tiens, la v'la qui s'élance dans le lustre. Ça, c'est du vrai trapèze, ça, c'est du boulot. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Elle a l'air bien à l'aise, j'y tire mon chapeau. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Oh, tonton Archibald, tu jongles pas mal avec le cristal. Et dites les potes, oui les papas, oui les Diana, oui les Charlotte, oui les Didi, oui les papas, où sont les filles, oui les papas, où sont les filles, oui les papas, où sont les filles, oui les papas.
Et dis Bobby, si ton papa tu cherches, ben je vais te le rendre.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien à la causerie, comme tous les dimanches de 22 à 23, et je vais tout de suite passer la parole à Emma. Bonsoir Emma.
Bonsoir.
Ouais, elle est de retour.
Elle est de retour, oui.
Un applaudi.
Ouais.
Voilà, elle existe donc vraiment.
Ouais, je réexiste en fait. Bah, on présente peut-être les gens aussi qui sont autour de la table. Mais oui, là, il y a Fab à la technique.
Oui, salut, c'est moi, je suis à la technique.
C'est vrai.
Bonsoir.
Bonsoir.
Clara.
Bonsoir.
Et on a aussi Vava.
Bonsoir.
Ok, ça va, c'est bon.
Qui donc se balançait sur une chaise comme tous les auditeurs ont pu l'entendre.
Et après, je te repasse la parole.
Hein. Oui.
Mais c'était pour faire un petit coucou à Louli. On ne sait pas s'il nous écoute là où il est.
De Rémini.
Comment elle a balancé ? Louli, c'est pas moi si tu écoutes. Enfin, bon bah voilà, Emma, tu te débrouilles pour le reste de l'émission, c'est à toi.
Très bien.
Bon bah salut, moi je rentre. Hein.
T'as des rappels de mails, tout ça ?
Ça fait trop longtemps. Oui, oui, oui.
Alors en fait, on a un blog qui se trouve sur le blog des émissions.
Blogs.
Voilà, blogs.
Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé la mémoire. blogs.radiocanu.org/lacauserie.
Oui. Ah, le slash, c'est aussi une barre oblique, bien évidemment.
Exactement.
Voilà.
Et peut-être l'adresse mail.
lacauserie@.
Perdu. On commence.
lacauseriecanu@gmail.com.
C'était bien tenté.
Ah là là.
C'est 3 semaines de vacances qu'on fait un mal fou. Hein.
Ouais, je crois que je vais m'en reprendre une. Hein, par
On va te remettre de tout ça.
Exactement.
Avant qu'on commence vraiment sérieusement, je voulais dire bonjour aux gens qui ont réussi à rentrer à Dijon. Bravo à vous.
Ah oui, bravo.
Félicitations. Voilà, ils se reconnaîtront. Et puis, on y va. C'est parti.
Oui, et puis peut-être à tous les auditeurs qui sont dans leur voiture. Bonsoir voilà. aussi à vous.
Bonsoir à mes auditeurs qui êtes dans votre voiture. Et d'ailleurs, à mes auditeurs qui est dans un avion. Bonsoir aussi.
Est-ce qu'on peut nous écouter en avion?
Je sais pas.
Alors, à mes auditeurs, si tu es dans un avion et que tu nous entends,
envoie-nous un mail à lacoserycanu@gmail.com.
Ouais, voilà, exactement.
Trop bien. Eh ben, je crois que là, on est à fond. On est waouh comme des petits fous et des petites folles. Emma, tu vas peut-être nous faire le premier sujet alors.
Allez.
T'as envie de nous parler de quoi? Est-ce qu'on était un peu parti sur une émission un peu autour des préventions, c'est ça?
Ouais, exactement.
Voilà. Donc.
Et là tout de suite on plombe l'ambiance.
Eh oui, ça va être sérieux. Eh ouais. Ah bah ouais. Hein.
Eh ben bah, c'est
ouais,
parti.
Il faut. Moi je voulais parler en fait. Alors c'est pas vraiment prévention, c'est plutôt un petit coup de gueule et un rappel. Samedi dernier, donc le 1er février, il y avait une manifestation.
Mais t'avais oublié aussi qu'il fallait se mettre devant le micro.
Mais si, pourtant il est bien positionné.
Voilà. Ah, là on t'entend beaucoup mieux.
Super. C'est pas mon micro habituel, c'est pour ça. Normalement j'ai le rouge et là j'ai un bleu, j'aime pas ça. Je tenais à le dire. Oui, donc il y avait une manif en soutien aux femmes espagnoles par rapport à l'IVG. Et on n'était pas nombreux à cette manif. Bon, c'était un samedi après-midi, il pleuvait, donc il y a eu pas mal de gens qui ont été découragés. Mais surtout, moi, j'ai entendu des gens qui disaient, on en a croisé aussi pendant la manif, qui nous disaient, ouais, mais on s'en fout, après tout, c'est en Espagne, c'est pas en France. Et c'est vrai que, enfin, nous, ça nous a un peu choqués. Puis des gens qui se sentent pas du tout concernés, parce qu'après tout, en France, ça a l'air très libre d'accès et tout ça. Donc voilà, moi j'ai une amie il y a pas longtemps qui a été reçue dans un centre IVG et je tenais à partager son expérience juste pour que vous vous rendez compte que même si en France on va dire que le texte de loi semble acquis, dans les faits, comme souvent en fait, ça l'est pas du tout. Et donc voilà. Donc déjà, j'aimerais rappeler que le coût d'une IVG, c'est entre 200 et à peu près 645 € pour les cliniques publiques. Ça peut vraiment augmenter, doubler, voire tripler pour des cliniques privées. Alors pour les cliniques publiques, normalement, c'est pris en charge par la Sécurité sociale. Mais en tout cas, dépendant des cliniques, il y en a qui demandent d'avancer les frais. Donc c'est pas rien des fois d'avancer 645 €. Ça, c'est pour répondre à toutes les personnes qui nous disent... Oui, mais on a un peu peur aussi qu'il y ait de l'abus de l'IVG, que des femmes prennent plus leurs pilules et qu'elles se fassent des IVG comme ça. Oui, c'est sûr que ça reste une bonne partie de plaisir de oui, dire tiens, ça. Je vais oublier ma pilule. Puis c'est pas grave, au pire, j'irai me faire avorter, c'est tellement plus sympa. Ouais. Donc voilà. Et donc en fait, le témoignage de mon amie, elle a appris la nouvelle après plusieurs tests de grossesse. Et elle s'est rendue d'abord dans un hôpital public où pour vraiment être qu'on la diagnostique. Et donc là, le médecin lui a dit donc de se référer à un centre d'IVG. Et donc lui a dit allez, vous pouvez aller sur le site suivant ivg.gouv.fr. Et puis vraiment pour appuyer en soutien sur le site du ministère de la Santé. Normalement, ces sites, on se dit ils sont plutôt gouv.fr, ça fait peur. Normalement, c'est un site du gouvernement qui est vérifié, et d'autant plus le site du ministère de la Santé. Et là, donc, sur les sites, on trouve en fait des assos qui s'occupent, des centres associatifs et les centres des plannings familiaux. Et donc les références dans toutes les villes. Et elle, la première fois, elle s'est rendue dans un centre associatif à Paris. Et entre-temps, en fait, elle discutait avec un ami par SMS en lui disant qu'elle avait décidé de se rendre dans tel centre. Et il lui a dit, écoute, tu verras à l'accueil, mais je te déconseille d'y aller parce que c'est un centre pro-life. Et effectivement, quand elle est arrivée, il y avait un accueil plus trop froid, pas du tout chaleureux, pas du tout compréhensif non plus. Ils ont plutôt essayé de lui faire la morale. Et essayé, bien sûr, parce que vous savez, il y a un délai, en fait, entre... la volonté de procédure et en fait il y a un délai d'une semaine de réflexion pour signer les papiers et ils ont carrément menti sur le délai en disant non mais le délai ça peut être de 2 semaines à 3 semaines et en insistant oui mais du coup vous n'êtes pas la seule décisionnaire, où est le papa parce qu'il nous faudrait les 2 signatures, ce qui est totalement faux, c'est la femme qui prend la décision à elle seule. Et donc voilà, et elle, à la suite de ça, bien sûr, elle est partie de ce centre, elle s'est tournée vers le planning familial de Paris et qui ont été assez étonnés en fait de cet accueil qui a été fait et qui lui ont bon voilà on passera les détails de la procédure de grossesse. En tout cas elle a été très bien accueillie par le planning familial. Ils ont été très chaleureux, ils ont été très compréhensifs et ils ont lui apporté beaucoup de soutien et aussi de réponses. Parce qu'elle, quand elle s'était rendue la première fois chez le médecin, c'était vraiment « Bon, bah écoutez, on va vous faire une prise de sang, on va vous donner quelques papiers et puis voilà, faites la lecture et puis bye bye quoi. » Et voilà, elle m'expliquait que dans ces cas-là, on est un peu perdu, qu'on a besoin qu'on nous explique des choses, même des trucs très bêtes. Et que le premier médecin qu'elle avait vu, lui expliquait des trucs, mais comme si elle avait fait médecine bac plus 8 quoi. Donc... qui n'était pas compréhensible en fait par une personne on va dire lambda. Et donc à la suite de ça, elle a quand même pris le temps en fait d'écrire au ministère des femmes et de leur dire voilà, c'est étrange, j'ai trouvé tel enfin je me suis retrouvée dans tel centre associatif de Paris qui était pourtant référé sur donc ivg.gouv.fr et en plus qui était référé sur un site du ministère de la Santé. Et en fait, elle a eu une réponse donc, du ministère des Droits des Femmes qui lui ont dit « Non, non, mais nous, on fait bien un checking régulier, on se rend dans les centres, on fait un suivi, c'est vraiment étrange. » Enfin voilà, qui mettait un peu en doute ses paroles et qui disait que ces genres de centres associatifs étaient vraiment équivalents à au centre des plannings familiaux, quoi. Et voilà, donc c'était juste un petit rappel pour vous dire que voilà, juste, enfin, oui, ok, là, on revient sur la loi en Espagne, mais en France, c'est pas parce qu'on a une loi qu'on pense acquise et parce qu'on a enlevé le caractère de l'urgence et qu'on se dit super maintenant. Enfin, il y a encore des choses à combattre. Les groupes pro-life, c'est pas qu'aux États-Unis, c'est pas qu'en Espagne, c'est aussi en France. Et voilà, c'est quand même un peu suspect. Donc voilà, j'invite en tout cas toutes les personnes qui seraient confrontées à cette situation à plutôt se référer au planning familial près de chez elles qu'aller dans des centres associatifs, parce que le planning familial, ils sont quand même plutôt experts là-dedans. En général, vous êtes très bien accueillis, très bien reçus par des personnes compétentes qui croient assez bien aux droits des femmes. Donc voilà, et qui ne seront pas... qui ne seront pas là pour vous juger, pour vous faire la morale et pour vous dire, la prochaine fois, pensez bien à prendre votre pilule ou à mettre un préservatif. Sachant qu'on le rappelle quand même que la pilule, c'est sûr, à 99,97%, je crois. Donc, ouais. Les 0,03% existent.
Ouais. Ouais. Je peux rebondir un petit peu là-dessus. Enfin, pas sur, pas sur ce que tu disais, mais plus par rapport à la réaction du ministère. Il faut savoir que depuis un certain nombre d'années, gauche comme droite confondue au pouvoir, ont un énorme problème avec le planning familial, parce que le planning familial, c'est quelque chose qui, au départ, s'est créé contre le gouvernement, il faut être très clair, qui a été créé pour les femmes et qui a été créé par les femmes. Donc en fait, il y a un réel problème pour beaucoup de gens, c'est qu'ils n'ont pas la main dessus. Ouais. Ils ont beau essayer d'avoir la main dessus, même quand ils leur sucraient des subventions sous Sarkozy, le planning familial a tenu bon autant qu'il pouvait. Et il a fait son rôle, et surtout il l'a fait en se battant, et en se battant bec et ongle pour les droits des femmes, et pour les droits des femmes à disposer de leur corps. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et moi, je reste persuadé, mais ça n'engage que moi, que y compris Najat Vallaud-Belkacem, qui est aujourd'hui ministre du droit des femmes, a un réel problème avec le planning familial, parce que le planning familial, il critique. Par exemple, il a critiqué la loi sur la prostitution. Il critique les lois que Najat Vallaud-Belkacem fait sur, soi-disant, pour avancer sur les femmes, où il démontre qu'au final, ça ne fait rien avancer, et qu'au contraire, ce n'est que de l'enfumage. Et c'est ce qui fait qu'on diabolise le planning familial et qu'on envoie les gens vers d'autres structures.
Exactement.
Et dont la structure dont tu as parlé. Et je reste persuadé que c'est volontaire, même si... Peut-être qu'ils espéraient, ils pensaient pas qu'ils étaient pro-vie, comme on dit, c'est-à-dire anti-IVG, pour être très clair. Mais je pense que vraiment, c'est le but de mettre en concurrence le planning familial avec d'autres structures pour pouvoir dire, voyez, vous ne servez plus à rien. C'est exactement la même chose qu'ils avaient fait avec la CIMAD pour les demandeurs pour les sans-papiers. C'est-à-dire, on est en train d'essayer d'écarter toutes les associations qui ont un fond politique.
Politique.
En fait.
C'est juste ce que je voulais rajouter. Au final, les gouvernements détestent tout ce qui est politique en fait.
Eux, ils attendent une association qu'elle dise oui, amen, merci, quand il suffit de prendre des petites subventions et qu'elle soit bien docile, quoi. Et c'est vrai qu'effectivement, même sur les derniers mouvements, etc., enfin, je sais que autant que ça soit pour le mariage pour tous, que les manifs, etc., enfin, le planning familial, en tout cas, au-dessus de la région Rhône-Alpes.
C'était au niveau national.
Je pense que c'est au niveau national.
Présent,
et toujours présent. Quoi. Et effectivement, ils n'hésitent pas à mouiller la chemise.
Même si je ne sais pas si ça se dit vraiment.
Moi non plus, c'est très bizarre cette expression. Je ne sais pas d'où elle vient. Je m'excuse.
Bah, la chemise des travailleurs, on peut. Mais oui,
ça ah ouais, c'est ça. Ouais,
tout à fait. Même la chemise des métayers. Alors.
Non, mais je ne sais pas pourquoi moi je viens de le dire. On ne va pas rester là-dessus. Mais en tout cas, ouais, et. Non, j'avais une question. Donc, on peut peut-être rappeler l'avortement, c'est gratuit.
C'est gratuit, enfin, c'est surtout pris en charge. Il faut bien faire attention en fait, de se trouver dans des centres qui les prennent directement en charge, parce qu'il y en a certains, comme je l'expliquais, où il faut avancer les frais. Et donc, voilà,
ouais. Mais donc justement, mais en disant que tu dis aux gens de plutôt aller vers le planning familial, je pense qu'ils ont plus de chances de tomber sur un système qui n'est pas là pour leur dire avancer les frais, etc.
Ouais,
etc.,
et c'est pris en charge, je ne sais pas si je l'avais bien dit, mais c'est par l'assurance maladie, par la sécu, ce n'est pas pris en charge par votre mutuelle. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas forcément de mutuelle ni de complémentaire, c'est pris en charge par assurance maladie. Donc voilà.
À 100%.
À 100%.
Ouais.
Il y avait un autre sujet un peu transverse dont vous vouliez parler tous les deux.
Ensemble.
Qui n'a pas un lien direct, mais qui a un lien sur plutôt le rapport au médical et au monde médical.
Ouais, je te laisse peut-être le présenter au final.
Allez, on a une petite BD qui est bien sympa, donc dont le titre c'est 3 grammes. C'est alors, je suis désolée, mais Jisu Chin, j'imagine. Et donc c'est aux éditions Kambu Raki. Et donc en fait, Jisu Chin, je suis désolée pour...
C'est pas grave.
C'est terrible. Elle est graphiste, enfin elle est dessinatrice. Et du jour au lendemain, elle apprend qu'elle est atteinte, enfin elle a du cancer des ovaires. Et elle a décidé en fait de faire une BD sur sa maladie, sur sa vie à l'hôpital, sur l'avant-après on va dire. Et ça se lit très facilement, hein. Moi je l'ai lu même pas en une journée. C'est une BD avec un tout petit peu de couleur, beaucoup de noir et blanc, qui est très forte graphiquement. Il y a des moments où forcément elle vit très mal la chose, surtout à l'hôpital. Et là on se retrouve avec des pages complètement noires, très brouillon, on la voit... Il y en a une aussi par exemple où on va la voir complètement chutée et tout ça, enfin... C'est très fort graphiquement. Ouais. Et ça soulève un peu un tabou. Moi, c'est vrai que j'en discutais avec des amis un peu rabat-joie qui me disaient « Non mais attends, mais qu'est-ce que tu vas lire ça ? Après, t'étonnes pas de déprimer le soir et tout ça. » Et on en parlait un peu entre nous. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a certains sujets, faut pas écrire dessus. Quoi. Ouais. La BD, faudrait écrire que sur l'amour et sur certains trucs comme ça. Sinon, faut pas, surtout pas écrire sur la maladie, sachant que c'est un sujet comme un autre. C'est que Cette personne, elle était graphiste, donc elle a profité de sa patte pour raconter son histoire personnelle. Puis voilà, c'est bien aussi de suivre son quotidien, de suivre son questionnement. Je sais pas.
Ah ouais, et que la maladie, ça fait aussi partie de la vie. Quoi.
Bah oui.
Et que, à un moment donné, il faut essayer de prendre en considération tout ce qui peut arriver. Moi, je suis tombé vraiment par hasard sur ce bouquin et je trouve que c'est génial, effectivement, que sous format BD, On touche à un sujet qui peut être, selon les dires de certains, tellement grave et tout, et qu'au final, c'est super intéressant parce que effectivement, on va passer de la constatation de ses douleurs, de son ventre, etc. Puis on va tomber dans des moments qui seront, effectivement, comme tu disais, graphiquement, on comprend bien que ça va pas et qu'elle s'en sent pas bien, mais on va aussi passer par la phase, tiens, j'ai une chimio et j'ai besoin d'une perruque.
Ouais.
Et ça, j'ai trouvé vachement intéressant parce que là, c'est une malade qui parle. Et elle dit en fait, quand les gens sont venus me voir, tout le monde m'a dit ah, ça va et tout, t'as bonne mine, mais personne n'a parlé de la perruque. Et elle le dit dans le livre, en fait, moi, j'attendais juste qu'on m'en parle. Qu'on me dise tiens, est-ce qu'elle me va bien, est-ce qu'elle me va pas bien. Enfin, parce que parce qu'elle intégrait cette perruque comme. Comme un élément de sa vie et à un moment donné. Et je trouve que c'est vraiment super bien et que. Je trouve que ce genre de bouquin, en tout cas à ma connaissance, après, si vous avez des liens, si vous avez des noms de bouquins, n'hésitez pas à les filer sur la causerie. Mais je trouve que c'est juste génial, quoi. Et c'est pas dans un format, c'est pas pitoyable, quoi. Il y a quelque chose, c'est pas « Oh, la pauvre malade !»
Ouais, non, c'est pas du tout dans le pathos, en fait. Ouais. Enfin, elle raconte vraiment son quotidien. En plus, c'est une jeune graphiste, quoi. Elle est dans sa vingtaine et tout ça. Et c'est vraiment... Elle raconte son quotidien à l'hôpital, aussi le détachement de certaines personnes. Elle a un copain qui, au début, vient la voir tous les soirs. Puis tout d'un coup, elle raconte qu'il a des empêchements. Et puis du coup, il passe qu'une fois par semaine et il reste même pas une vingtaine de minutes. Donc voilà, c'est super intéressant de voir tout ce qui gravite. Parce qu'en fait, il y a une vie aussi à l'hôpital. Mmh. Et ça, elle en parle. Elle raconte un peu de ses sorties, ses espoirs et tout ça. Enfin, c'est vachement sympa à lire. Donc voilà, on recommande chaudement.
Ouais. On rappelle peut-être le titre et...
Allez.
Bon, je t'évite l'auteur. Non, si quand même, faut faire l'auteur. Hein.
Alors, c'est 3 grammes. Et l'auteur, c'est Chichou Chin.
Yes. Et les éditions, allez.
Kambourakis.
Yes. En toute façon, vous retrouverez toutes les coordonnées des bouquins et tout ça sur le blog de la causerie.
C'est cool. Ça.
Bon, on passe un peu de musique.
Ouais. Allez. Et avant de lancer, je voudrais juste te dire que ce titre a été choisi par Emma.
Allez, salut.
Vous êtes bien sur Radio Canu, c'est toujours la causerie. Et on vient de s'écouter Film Troll avec Troll à Marraine. Et on fait un petit coucou à Monsieur Metal Dixit Laurent.
Et moi, je voudrais bien que tu me redises le titre.
Attends, Chora Maren.
C'était trop
en
bien.
En fait, c'est écrit en troll, un truc comme ça. C'est une langue qu'on ne connaît pas.
En tout cas, c'est une langue sûrement pratiquée quand même, je pense, non?
Oui, moi je trolls. L'utilise dans la vie quotidienne, exactement, pour communiquer avec les trolls. Hein, voilà.
Ok, donc il faudrait peut-être en inviter un jour, un ami troll.
Ouais, mais ils sont pas très nocturnes en ce moment.
C'est vrai,
ouais. C'est des couches tôt.
Ah, voilà. Bon, on fera une spéciale en journée.
Bon, comment repartir après
c'est ça,
ça
après,
oh, mais ne vous inquiétez pas, je m'en occupe.
C'est à toi. Je vais faire une vraie présentation. Ouais. Donc, Jean-Yves, tu voulais nous parler d'un sujet en particulier en lien avec la prévention, mais pas tout à fait comme on l'imagine.
Ouais, pas tout à fait non plus. C'était pas l'idée que j'avais au départ, mais la vie fait que vous faites des rencontres et que y a des choses qui ensuite vous énervent un peu, vous agacent. Enfin, bref. La polémique. Pardon, je ne sais pas d'où vient ce mot. En fait, c'est la prévention. En fait, pour moi, elle peut avoir plusieurs visages. En fait, c'est-à-dire, c'est selon certaines personnes, la prévention peut vraiment aller très loin. C'est-à-dire qu'enfermer son enfant, parce que pour le préserver du monde extérieur, c'est une forme de prévention, selon le dire de ces gens-là. Ça serait de l'amour aussi ou de la tendresse. Et puis, enfin voilà. Et moi, c'était. C'est un peu brouillon, hein. Je suis un peu désolé, mais je sais pas comment vous dire. C'est.
Dis-le avec tes tripes, en fait. Vas-y.
Non, mais je peux pas parce que.
Si,
quand même...
vas-y. On
non,
va.
Non. Mais en fait, c'est voilà. Enfin, c'est pousser un peu un coup de gueule contre tous ces putains de réacs. Ouais, ça va mieux en fait quand je lâche tout.
C'est ce que j'allais dire.
Désolé pour les gros mots. Et donc oui, enfin, c'est tous ces réacs qui au final viennent nous casser les burnes ou nous claquer je ne sais quoi d'ailleurs, les ovaires peut-être.
Merci, parce qu'on a dit que casser les couilles, on ne l'utilisait plus.
Ouais, mais tu vois, je...
Il a dit burnes.
C'est bien. Ouais, et puis il a dit les ovaires après.
Il a dit
merci.
Les ovaires. Ouais, il est sympa ce mec. Hein.
Ouais,
ou cette
bien.
Fille, je ne sais pas d'ailleurs.
Qu'est-ce que la fille est vulgaire d'ailleurs ce soir.
Arrête. On est en direct. Et donc, pour revenir sur mon sujet, ouais, un peu autour de la prévention et de cette fausse prévention, en fait, voilà, c'est un peu pour... Il y en a un peu marre de tous ces gens-là qui prennent des décisions ou qui pensent à la place des autres. Et je pense en premier aux parents et aux autres adultes si bien pensants et si gentils qu'en fait, ils en viennent à penser pour l'autre. Et en fait, quand on pense pour l'autre, on ne fait plus de prévention. On pense simplement pour l'autre et on enferme l'autre. Donc en fait, vous pouvez prendre ça pour autant ceux qui mettent des coups sur leur gamin, parce que pour leur inculquer, des manières, des règles, etc. Parce que merde, quoi. Hein, ça passe que par la violence, la prévention aux mauvaises manières. C'est bizarre, non? Et il y a aussi tous ceux-là qui se battent contre les déviants, contre cette société qui serait anormale par des gens qui ne sont pas bien, etc. Et qui emmènent leurs gamins manifester dans des manifs qui sont à vomir, autant que ça soit contre le mariage pour tous, que tous les réacs du jour de colère et toute cette merde. Ce sont juste des obscurantistes et qui ne sont pas là pour la prévention, ils sont là pour l'enfermement. Et voilà, et puis c'est les mêmes qu'on retrouve aussi contre l'enseignement de cette fantasmée théorie du genre qui soi-disant transformerait nos enfants, nos garçons en filles et nos filles en garçons. Oui, les côtes sont tout chamboulées, c'est incroyable.
C'est avec la fameuse baguette magique de la fée.
Ben oui.
C'est-à-dire que la fée vient dans la classe et elle fait pouf, tu seras pédé.
Oui,
ça marche.
Ben oui.
Quoi, mais c'est pas ce qui s'est passé pour vous
ben
oui.
C'est vrai, t'as eu la visite de la fée.
Oui, mais j'ai eu la fée. La fée Goudou. Elle s'est penchée et voilà.
Et pouc, un coup de baguette magique. Et puis donc voilà, enfin après c'était aussi, je continue dans ce truc toujours aussi déstructuré qui me ressemble beaucoup. C'est aussi cette prévention qui enferme ces gamins et qui soi-disant pour les protéger, pour les prévenir de choses qui pourraient leur arriver, etc. Et ben on les enferme, quoi. Et ça, c'est pas normal. La vie, c'est pas l'enfermement, en fait. Oui, on peut se casser la gueule. Oui, on peut faire des erreurs. Mais c'est pas en enfermant les gens qu'on va arriver à éviter à ce qu'ils fassent ces erreurs-là. Donc, c'est très brouillon, tout ce que je vous dis, sûrement. Donc, ce que je voulais dire, c'était que, bah voilà, que enfin, cette prévention-là, qui consiste à enfermer, à battre, à taire certains propos, c'est pas de la prévention, c'est de l'enfermement, c'est une réponse, c'est de la peur de la société, de la peur des humains, de la peur des évolutions sociales, parce que ça les fait flipper, ça les oblige à se remettre en question. Et la prévention, ben, c'est ce que, après, vous pouvez peut-être me contredire, mais c'est pour moi, en fait, elle ne vaut que si elle est sur un pied d'égalité.
Non, c'était juste pour te contredire.
Ouais. Tu l'as bien fait. Et donc, quand je parle d'égalité, c'est dans l'égalité d'intervention aussi et d'interrogation. C'est-à-dire qu'on vient de pas sermonner quelqu'un. Ça, c'est juste un sermon. Ça, on le laisse aux curetons, aux imams et aux rabbins. La prévention, c'est dans le dialogue, en fait. Sinon, ça sert à rien.
Mais je crois surtout ce qui est intéressant et important, c'est de voir qu'on nie le fait que les enfants sont des individus.
Mais oui.
Et qu'il y ait un âge, effectivement, où ils ont besoin d'être un peu couvés, dans le sens où il faut faire un peu gaffe. Ouais. Parce que c'est clair que, bon, quand on essaie de traverser une autoroute deux fois trois voies, c'est un peu dangereux. On est d'accord. Par contre, le problème, c'est quand on arrive à l'âge où l'enfant a la capacité de raisonner, c'est-à-dire où on peut discuter avec un enfant. Ouais. Et alors, je voudrais juste rappeler comme ça que ça se situe autour de 5 ans, hein, pour les gens qui n'auraient pas compris l'âge. Donc, on peut commencer à discuter avec son gamin. Oui. Et souvent, bah, les gens, au lieu de discuter, ils imposent. Et puis après, ils imposent, puis par peur, ils enferment, ce que tu décrivais. Et je pensais à un truc que j'ai lu juste avant, là, dans le métro, sur mon téléphone, parce que j'ai reçu un truc, voilà. Il y a un jeune de 19 ans à Lyon. Cher ami, si un jour tu veux venir à la causerie, tu seras pas le bienvenu, autant te le dire, qui expliquait en gros que lui, à 19 ans, il comprenait pas pourquoi on pouvait dire aux enfants, bah, qu'on pouvait choisir son genre. Voilà. Parce qu'il disait, les enfants, ils naissent avec un sexe, et le sexe, voilà. Alors le gars, déjà, n'a pas compris ce que c'était la différence. Puis surtout, en fait, ce qu'il était en train de dire, c'est que lui, il voulait qu'on maintienne les gens dans les clichés. Oui. Parce que c'est ça qu'il dit en dessous. Ouais. Parce que ça le rassure, parce que lui à 19 ans il a connu que ça, d'ailleurs il expliquait, une famille catholique, 5 enfants, où ses sœurs sont toutes mariées, où lui n'est pas marié, mais qui va bientôt se marier, à Cunégonde sûrement, et c'était assez impressionnant quoi, enfin de dire que voilà, c'est pas propre à des gens vieux, c'est quand même quelqu'un qui a 19 balais, qui est le président a priori de Jour de Colère, sur Lyon, et du coup c'est... Cette notion de dire, moi je veux que pour être bien dans mes baskets, que rien ne change, rien ne bouge, qu'on voit surtout pas des têtes dépassées et tout, et que le gars a 19 balais, je me dis, mais... Enfin, sa vie, elle est merdique. Excusez-moi, mais je me dis, pour en arriver à 19 ans à penser ça, mais je me dis, c'est terrible, quoi. Oui. J'ai dit, il a jamais été confronté à quelque chose qui lui échappait. Donc, alors, lui aussi a sûrement été enfermé dans un moule, dans un code. Truc. Parce que pour arriver à avoir ce discours-là à 19 ans, c'était... Enfin, moi, ça m'a un peu scié. Mmh. Et ce qui m'a, moi, vraiment, si tu disais la théorie du genre fantasmé, ce qui faisait rire, c'est qu'on lisait dans ce qu'il disait, mais alors c'était plus que du fantasme. Quand je disais la fée qui vient, mais c'était ça, quoi. C'était en gros, il disait, mais des homosexuels vont rentrer dans les classes pour transformer nos enfants.
Oui,
je sais pas, mais il y a un moment donné, mais amis auditeurs, les LGBTIQ n'ont pas de pouvoir magique. On met des collants, des fois, mais on met pas de cap. Non, donc, on a pas de pouvoir magique. Non, mais je c'est impressionnant d'imaginer, je sais pas, il suffirait que quelqu'un rentre dans une classe et hop, la moitié des enfants changerait de sexualité, mais c'est qu'en 2014 quelqu'un puisse sortir un truc comme ça, mais c'est affolant quoi.
Mais oui, et puis après, enfin, je voulais rebondir vraiment, que tu voulais peut-être
non,
quand tu parlais de ce jeune qui sûrement a lui-même été enfermé, la question après qui est à se poser, c'est est-ce que on va l'aider à sortir de son enfermement en le réconfortant dans sa foi, etc., que la religion c'est pas un problème. Ben moi je ne crois pas, je crois que la religion est un de nos premiers ennemis, je crois qu'il faut réellement en avoir conscience, c'est un truc qui tue la conscience, qui tue la réflexion, et qui au final, derrière ses grandes valeurs, n'est que synonyme d'exclusion pour tout être différent, et être différent c'est déjà ne pas être un homme blanc, je pense que déjà là vous sentez des différences, une fois que vous êtes croyant. Mais après, ça n'engage que moi, ces propos-là anticléricaux. Oui, je le revendique. Et justement, alors après, peut-être pour finir, mais c'est, en fait, cette prévention, au final, ouais, elle s'accorde à faites gaffe à tous ces réacs, quoi. Ça pue vraiment dans les rues. Enfin, ça pue, je trouve, la mentalité pue. Les jeunes de 18 piges, ils rêvent plus. Ils rêvent plus d'un futur où on pourrait abattre des choses, des frontières, des hiérarchies. Non, quoi. Ils rêvent à revenir au temps de leurs grands-parents, quoi. Mmh. il y a un gros problème, franchement, il y a un gros problème, quoi. Et c'est peut-être à nous, gens militants de gauche, etc., enfin, à un moment donné, n'ayons pas peur de ce qu'on revendique et de nos rêves, quoi. Parce que les revendiquent leurs rêves, qui pour moi sont plutôt des cauchemars pour une grosse partie de la population. Hein. Parce qu'encore une fois, si t'es pas un homme blanc hétérosexuel, ça sera déjà plus compliqué quand même.
Ouais, puis non, puis j'ai l'impression, moi, qu'on est dans une grande période de flegme intellectuelle. Bon, on l'a vu avec la théorie du genre, où les gens bah, reçoivent des textos, puis bah, croient ça et vont pas faire l'effort de rechercher, de se questionner. Et puis moi aussi, j'entends quotidiennement des propos, mais complètement débiles là-dessus, où on revient à de la contamination homosexuelle, quoi. Mais non, mais enfin, on est d'accord, ça ne marche pas comme ça. Et c'est vraiment, moi j'ai pas envie que mes enfants aient des cours par des personnes homo. Peut-être que ça va être une révélation, mais il y a des profs homo, donc...
Ah bon ?
Si, il y en a. Donc oui. Vos enfants ont sûrement eu déjà des cours par des personnes homo. Ah oui. Voilà. Mais c'est surtout ça, c'est l'espèce de flegme intellectuel. Oui. C'est on lit Métro le matin, on croit du coup qu'on est bien documenté, et puis voilà, quoi. C'est assez impressionnant.
On s'arrête à ce qu'on nous dit, en fait. On fait surtout pas fonctionner notre cerveau. On prend toute cette merde qu'on nous file, et puis on est sûr d'avoir réfléchi sur le monde et la société. Bah, c'est un peu plus large que ça, en fait. Donc voilà, bref, bougez-vous le cul, arrêtez de vous cacher derrière les trucs. Osez assumer vos côtés... Voilà, friendly, etc. N'hésitez pas, n'ayez pas honte. Soyez féministe, c'est pas un crime, bordel.
Mais si, c'est. Et puis vrai. Courage à tous ceux qui subissent, parce que c'est surtout à ça que je pense, moi. Oui. Je pense qu'en ce moment, il y a des jeunes et des gamins et des gamines et qui dégonnent, comme on dit à Lyon, qui morflent parce qu'ils subissent et qu'il y a des gens qui détournent le regard en disant oui, mais bon, ça nous regarde pas parce que bon, c'est ses parents, donc ils ont le droit. Bah non, ils n'ont pas le droit, quoi. Non. Voilà, point barre.
Les parents biologiques ne sont pas forcément les personnes qui sont forcément gentilles. Hein. Enfin, je veux dire, ça existe quand même, faut arrêter de se mentir.
Mais, parce que comme le disaient les Fatales Picard, Mussolini aussi avait une maman. J'ai trouvé ça très drôle. Tu avais fini ?
Ouais, je crois qu'on va s'arrêter.
On va lancer la musique.
Avant
de lancer la musique, moi, j'avais un truc à dire. Je voulais le dire au moment où Emma. Nous, les enfants, de toute façon, on les laisse au curé, quoi.
Ouais.
Fake, 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 fake
Et là, ben là, on vient de s'écouter du super bon son qui sort de, d'Égypte, en fait, au Caire, dans les soirées un peu underground. C'est Wet Robot et Bozaina. Le titre, c'est Fake is Vogue. Essayez de chercher les trucs, ce qu'ils font. C'est vraiment du bon son. Et puis, et ben, ils ont du courage de faire ce qu'ils font là où ils sont.
Tout à fait.
Parce qu'ils se font jeter de scène comme des malpropres, parce qu'ils sont trop...
transgressifs.
Ouais, c'est ça. Donc voilà, soutien. Eh ben, je crois que Fab, tu voulais un peu continuer, toi, dans la prévention.
Ouais, moi, je voulais parler d'une polémique qui est en ce moment et je trouve que ben on la tait un peu. Comme souvent, ce qui touche l'industrie pharmaceutique, on a tendance à pas avoir trop de comment dire de d'articles dans les journaux. Hein, on fait comme si ça n'existait pas.
Ah bon.
Donc voilà. Et en fait, là, ça, c'est plutôt intéressant parce que c'est lié au Truvada. Alors le Truvada, c'est un médicament. Je ne citerai pas le labo parce que j'ai pas envie de lui faire de la pub. C'est un médicament qui donc est en test en ce moment parce qu'il permettrait de prévenir les transmissions du VIH d'une personne à l'autre si elle ne porte pas de préservatif. Vous avez fini de vous faire des signes parce que moi, c'est pas pratique pour...
J'ai essayé d'aider Emma.
C'est
Jean-Yves. Je crois qu'elle en perd. On a perdu Emma.
Et donc, du coup, en fait, bon, ce médicament, donc pour revenir sur ce que je disais, c'est censé être pris en pré-exposition, c'est-à-dire avant tout risque d'exposition. Donc quand on dit ça, on dit ouais, c'est bien et tout, on prend une petite pilule, on peut aller fricoter comme dirait l'autre, et après tout va bien se passer. Sauf qu'en fait c'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est à prendre tous les jours à partir du moment où vous estimez à risque pour vous protéger d'une contamination potentielle au virus du SIDA. Voilà. Donc oui, vas-y.
Non mais donc ça fait à peu près tous les habitants du monde, en fait.
Alors voilà, c'est ça, c'est là-dessus qu'est le début de la polémique.
Ouais.
C'est que déjà, au départ, le Truvada, les gens ont dit oui, alors il faut pas qu'on le mette pour tout le monde. Enfin, c'est la FDA, donc le gendarme des médicaments américains, qui a dit ça peut marcher, mais faut pas qu'on le mette pour tout le monde, mais d'abord pour les populations à risque. Donc il y a trois populations qui ont été ciblées aux États-Unis, ce sont les homosexuels hommes ayant des rapports avec des hommes, personnes qui sont sérodépendantes, c'est-à-dire qui ont déjà un partenaire qui est déjà séropositif. Alors je trouve le terme odieux, c'est un terme sérodépendant, je trouve ça vraiment odieux. Ouais. En gros, c'est juste des gens qui sont dans des couples dont l'un est séropositif. Et la troisième catégorie, ce sont les gens qui utilisent des seringues pour s'injecter des produits et qui peuvent se passer des seringues. Donc ça a été les trois populations qui ont été ciblées au départ. Et les tests ont été faits d'abord aux États-Unis et il y a une énorme polémique qui a commencé à se mettre en place parce que le médicament a été autorisé très très vite sans réellement avoir eu de retour de tests vraiment fiables. Je vous explique pourquoi. C'est qu'au départ, le laboratoire qui fait le médicament a dit « j'ai des tests, ça prouve que dans 90% des cas, je limite la contamination, donc ça marche ». Problème, les tests ont été repris par plusieurs universités et plusieurs, hôpitaux universitaires, et ils ont démontré que les tests avaient été complètement bidonnés, c'est-à-dire qu'en gros on est plus de l'ordre de 60% que de 90%, et du coup c'est pas tout à fait la même chose, parce que entre dire on a 9 chances sur 10 de vous protéger et 6 chances sur 10, c'est pas pareil quand même.
Ben oui, ça limite à la rigueur l'utilisation du médoc.
Donc du coup le laboratoire en question est revenu avec une grosse campagne de com et a dit oui mais enfin c'est déjà bien, 6 chances sur 10 c'est toujours mieux que rien. Moi je veux bien, on peut continuer comme ça longtemps.
Il en reste
Mais il a vraiment fait un lobbying très très forcé, et le lobbying est allé tellement loin qu'il a réussi à obtenir un essai en France qui s'appelle l'essai Hypergay, qui est piloté au départ par l'association AIDS et plusieurs autres associations, et auxquelles participait à une époque aussi, y compris ACT UP. Alors ça a servi d'ailleurs la participation d'ACT UP, et je pense qu'ils s'en mordent un peu les doigts, à dire, vous voyez, si même ACT UP est d'accord, c'est que ça doit quand même être vachement bien. Sauf qu'ACT UP, très vite, ils ont eu un rôle qu'ils ont depuis des années, et on les en remercie, c'est le rôle de lanceur d'alerte et de prise de recul. Et ils ont commencé à dire, attention, nous on a accepté de participer au départ, non pas pour que ce soit quelque chose qui vienne remplacer toutes les autres formes de prévention, mais pour dire que ça peut être en plus. Oui. Vous voyez, c'est pas une mauvaise idée, hein, de dire que ça peut exister en plus que des autres préventions. Et le problème, c'est que très vite, ACT UP a commencé à se rendre compte que, on commençait à vendre le médicament avant même de l'avoir testé. C'est un peu comme aux États-Unis. C'est-à-dire que très très vite, on a des porte-paroles, notamment de l'association AIDS, qui ont fait des jolis discours dans des magazines, notamment communautaires, comme on dit, c'est-à-dire Têtu ou même dans la 10e Muse à l'époque qui existait encore, en disant on est en train de faire l'essai hyper gay, ça marche vachement bien et ça va permettre de protéger les gens en amont. Le problème, c'est qu'on était en plein milieu de l'essai, qu'on n'avait même pas commencé à recruter complètement les gens, et qu'en plus, on ne peut pas balancer comme ça aux gens, le sida, c'est fini, vous inquiétez pas, on a la pilule miracle, parce que c'est extrêmement dangereux de lancer quelque chose. C'est un peu comme quand on a une petite avancée sur un vaccin potentiel, et que les journaux commencent à titrer, oui, on a trouvé le vaccin, quoi, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et là, en fait, ACT UP, ils sont retirés en fait, de l'essai en disant, non mais attendez, là, on met les gens en danger, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est sur une discussion qui met les gens en danger parce qu'on est en train de leur faire croire que grâce à la petite pilule miracle, vous pouvez enlever votre capote et tout va bien se passer. Et je résume un petit peu la position d'ACT UP. Mais moi je trouve que la position était courageuse parce que quand on fait partie au départ de l'essai et qu'on en sort en expliquant pourquoi, c'est beaucoup plus courageux que de rester en disant oui mais c'est toujours ça de prix. Moi je suis toujours... Voilà. Et du coup, ça m'a fait un petit peu creuser, parce que je me suis dit, il va y avoir quand même des pistes sur la prévention par rapport aux maladies sexuellement transmissibles et infections sexuellement transmissibles. Et il y a un petit médecin qui tient un blog, alors c'est un gars qui se fait appeler Docteur Capote, d'ailleurs, qui est assez connu, qui écrit même dans Cosette, et qui tient un blog assez sympa, dans lequel il rappelle quand même des choses qui sont assez évidentes, mais qu'on oublie de dire. Par exemple, en France, les préservatifs, c'est toujours payant.
Oui.
Donc, ça pose déjà un problème au départ de dire on veut faire de la prévention totale des maladies sexuellement transmissibles, mais on fait payer les préservatifs. Oui. Il faut quand même se rendre compte que l'accès aux préservatifs, c'est pas négligeable dans la sexualité et dans le rapport à la prévention. La deuxième chose qu'il souligne, et je la trouve plutôt intéressante, c'est quand il dit, en France, on parle beaucoup des pilules miracles et des vaccins miracles. C'est pas un hasard, parce qu'on est le pays où on prend le plus de médicaments, globalement. Donc on a toujours l'impression que l'industrie pharmaceutique va nous sauver de tout. Sauf que le problème, c'est que là, dans le cas du Truvada, on est quand même loin d'être dans quelque chose qui permette de se passer totalement d'autres moyens de protection. On serait plutôt dans quelque chose qui peut permettre d'aider certaines personnes qui vraiment sont réfractaires à la capote, et qui vraiment pourraient, mais on est loin de quelque chose qui va résoudre le problème. Et surtout, ce qu'il souligne de façon assez intelligente, c'est de dire mais qui voudrait prendre un traitement tous les jours qui aura un coût exorbitant pour se protéger d'une maladie dont on peut se protéger autrement? C'est un peu ça l'idée. Et moi, c'est ce qui m'interroge dans cet essai-là, c'est que on nous vend quelque chose comme étant magnifiquement merveilleux, sauf qu'au final, personne n'arrive à démontrer que ça n'aura pas d'effet de relapse, c'est-à-dire d'effet que tout le monde enlève la capote, vous voyez le truc? C'est-à-dire, hop, la pilule existe, elle est sur le marché, donc hop là, laisse rouler, on va espérer que mon partenaire prenne bien du Truvada, quoi. Et c'est un petit peu le truc qui gêne un petit peu dans cet essai-là et qui est très très mal expliqué. Alors je suis quand même allé sur le site de AIDS pour voir un petit peu ce qu'ils disaient par rapport à l'essai. Alors oui, ils sont très très optimistes, mais à un certain degré, ils sont même tellement optimiste que ça en devient limite de la communication. On n'est plus vraiment dans le fait scientifique, on est dans la com, quoi. C'est merveilleux, les personnes séropositives ou qui peuvent être exposées n'attendaient que ça. Enfin, il y a un côté très publicitaire, vraiment vraiment publicitaire. Moi, je tiens à rappeler quand même que si ACT UP est sorti de cet essai, c'est en grande partie parce que les personnes séropositives membres d'ACT UP ont dit c'est une connerie. C'est eux qui ont tiré la sonnette d'alarme en premier, en disant attention, là, on met les doigts dans un engrenage qui va aller à l'inverse de ce qu'on veut faire. Et si ces personnes ont tiré, c'est pas parce qu'ils adorent prendre leur trithérapie tous les jours, voilà, comme j'ai pu le lire dans certains commentaires. Donc, c'est juste qu'à un moment donné, eux, ils sont directement concernés et donc ils savent quels sont les modes de contamination, comment ils ont été contaminés, et ils savent très bien que dire on prend une pilule et on est sûr que les gens la prennent tous les jours et que ça va fonctionner, c'est juste illusoire. Enfin, à un moment donné, c'est illusoire.
Et surtout avec une pilule qui n'a que 60% exactement de réussite. Enfin, je veux dire, là, c'est alors juste une course au suicide.
Là-dessus, il y a toujours une polémique sur est-ce que c'est 60 et ce que c'est 90, parce que c'est toujours pareil, tant qu'on n'aura pas de test à grande échelle. Je rappelle juste au passage que les tests sur les médicaments ne sont pas indépendants, ils sont faits par les laboratoires, financés par les laboratoires et déposés par les laboratoires. Donc vous voyez, le terme d'indépendance, c'est un
grande,
petit peu compliqué.
Une grande indépendance.
Voilà, donc on vous dit, il y a des règles, hein, ils suivent les règles qui sont écrites. Écrite par des ministres qui ont travaillé pour des laboratoires. Mais enfin, ça, c'est un autre problème. Je voulais souligner ça parce que voilà, c'est un exemple typique de ce qu'on fait en France très régulièrement et qui fout le bordel dans la prévention. C'est-à-dire que, qu'il y ait des essais sur un médicament qui pourrait protéger des contaminations, très bien, c'est pas une mauvaise chose et c'est même plutôt quelque chose de positif. En termes de protection. Par contre, qu'on s'interdise d'interroger le comment, là, ça devient problématique. C'est-à-dire que si dès quelqu'un dit « Mais moi, je vois pas comment on peut faire prendre une pilule tous les jours », on lui dit « Ah ouais, mais toi, tu veux en fait que les gens ils restent avec la capote toute la vie ». Mais c'est pas du tout ce qu'il est en train de dire. C'est est-ce qu'on veut qu'un laboratoire, qu'on finance un laboratoire à prendre les médicaments tous les jours pour se protéger alors qu'il y a d'autres moyens de protection. La deuxième chose, c'est qu'en France, on voit qu'il y a toujours un problème avec la sexualité. C'est-à-dire le fait que le préservatif soit toujours pas gratuit, c'est le fait que on a un problème avec le cul. C'est-à-dire qu'on a beau se dire,
il y en a des dispo et gratuits, genre dans les maisons de quartier et tout ça, mais faut y accéder, quoi. Enfin, y rentrer et puis ressortir. Enfin, c'est quelque chose qui est. Donc voilà, on voit bien que c'est. On souhaite le cacher, c'est dans un petit panier bien au fond du couloir et tout à droite. Donc, c'est.
L'exemple typique qui est donné, c'est qu'est-ce que ça coûterait d'avoir des distributeurs, ce que vous avez déjà, sur toutes les pharmacies, mais où il suffirait d'appuyer sur un bouton pour vous libérer le préservatif. Je veux dire, qu'est-ce que ça changerait? Sauf que la différence, ça changerait, c'est qu'on ne mettrait pas 2 euros. Et je vous jure qu'il y a des études qui ont été faites, c'est le fait qu'il faille mettre 2 euros et tout, c'est pas forcément le prix, c'est le temps que ça prend. Vous voyez, il faut rester devant la machine. Il faut mettre 2 euros. Il faut appuyer, il faut attendre que ça sorte. Et c'est très bête, mais.
Et c'est le temps de temps que tu passes devant un truc, t'as pas envie d'être regardé, quand tu dis merde.
Et ça paraît très bête, mais il y a des études là-dessus qui ont prouvé que si c'était à accès direct, c'est-à-dire on appuie, on prend, on réduirait le problème déjà de façon excessivement importante. De la même façon, il y a tout ce qui est accès aux connaissances sur la sexualité. On voit bien qu'il y a un énorme recul là-dessus de ces dernières années, et que moins on connaît son corps, moins on sait prévenir les risques. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des jeunes, et il en parle très bien d'ailleurs le docteur Cabot, il y a des jeunes qui ne connaissent pas du tout leur corps. Mais quand on dit pas du tout, c'est du tout. Il a des questions qui sont hallucinantes pour des jeunes filles qui demandent mais est-ce qu'on a tout un clitoris par exemple, vous voyez, le truc, ou des garçons qui disent mais est-ce que si on met 3 préservatifs on est mieux protégé, enfin des trucs qui sont des choses qui paraissent graves. Mais on voit qu'il y a un recul aussi parce que plus personne ne fait vraiment de prévention de terrain. Et finalement, on fait beaucoup, beaucoup plus de prévention large. Alors, je vais juste dire un truc. Il y a 2 choses qui sont importantes. La première, je le redis, c'est que les capotes soient moins chères ou gratuites. Et la deuxième, c'est qu'on ait accès à des tests rapides, ça existe. Aux États-Unis, par exemple, ils ont autorisé les autotests. Donc, c'est-à-dire, c'est un test. Maintenant, ils font 4 maladies, d'ailleurs, potentielles, du VIH et des hépatites. Donc, c'est un test salivaire. Il n'y a pas besoin de faire de prise de sang. Vous mettez ça au fond de votre bouche, vous regardez. Et si votre test viraux positif, vous allez faire une prise de sang. D'accord. Et ça permet comme ça de réduire énormément les risques parce que les gens peuvent se tester eux-mêmes, ils le font dans un environnement qui est safe, c'est chez eux, tranquille, on est dans la salle de bain, on n'a pas besoin de se poser la question de savoir qui nous regarde, qui pourrait nous voir.
Ça évite d'aller à l'hosto, etc.
Et voilà, et ça par exemple, que ça ne soit toujours pas disponible, c'est un réel problème. Je veux dire, on commence par prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire on prend le problème par le laboratoire pharmaceutique qui va tous nous sauver, alors que le premier truc, c'est comment on peut se prévenir, comment on peut s'auto-tester, comment on peut nous prendre en main notre sexualité, comment on peut prendre en main notre corps. Et on revient un petit peu à ce que tu disais, Emma, au début, c'est le droit à ce que nos corps nous appartiennent et pas qu'à chaque fois on délègue et qu'on attende qu'on nous donne une solution miracle au extérieur. Et voilà, je voulais juste te dire qu'il y avait une grosse polémique sur ce Truvada et que pour moi la polémique elle est largement justifiée et qu'il faut vraiment s'interroger sur les tenants et aboutissants de cette grande campagne qui est lancée en ce moment. Voilà. Vous avez des questions?
Merci.
Voilà. Et juste avant que j'en mon titre, parce que je l'ai coincé.
Si, à la rigueur, si, je voulais juste rajouter un truc, mais qui n'a pas forcément, je ne rebondis pas sur ce que tu as dit forcément, mais que vous alliez acheter des capotes ou que vous alliez faire un test, n'ayez pas honte.
Tout à fait.
Soyez fiers, quoi. Soyez fiers de prendre soin de vous et de l'autre. Et en allant faire un test, vous prenez soin de vous aussi, quoi. Il n'y a pas de honte à avoir. peur, quoi. Ceux qui vous disent que vous devriez avoir honte, c'est souvent les frustrés du cul.
C'est assez vrai. Moi, je voudrais juste, avant de lancer la musique, je voudrais remercier Robert et Eliane, qui se reconnaîtront, et qui ont été... non, mais je vous explique pourquoi, parce que c'est des gens qui m'ont répondu très gentiment via Face de Plouc, parce que j'avais lancé une question à un peu à la volée. Et voilà, je voulais les remercier, parce qu'ils m'ont donné plein de docs, et ça m'a bien aidé. Voilà.
Okay. On les remercie.
Merci.
On passe à la musique.
Allez, musique.
Bye.
beaucoup, toi qui n'aimes pas le métal symphonique.
Oui.
Eh bien, c'était Nightwish avec Nemo, comme elle l'a dit plein de fois dans la chanson.
Ah, c'est ça qu'elle disait ? Oh, ça va, quoi.
On aura compris qu'il y a du goût et qu'il n'en a pas dans cette émission.
Oh. On en a
j'ai
tous,
pas dit qui.
Sauf un.
Ah, tu t'y mets aussi, toi. Bon, ben, je crois que je termine mes brèves et je m'en vais. Bon, c'est peut-être parce qu'on aura fini l'émission d'ici. Oui. En fait.
Attends, avant tes brèves, je peux garder le crachoir.
Vas-y.
Moi, tu parlais tout à l'heure justement des réacs, tout ça, des gens qui vont dans la rue, tout ça. Alors moi, je lis beaucoup. Je lis beaucoup de trucs en ce moment sur Facebook ou autres réseaux sociaux où je vois plein de gens qui s'énervent. Ouais, c'est pas bien, la manif pour tous, ils disent des trucs méchants contre les PD, et contre les Gouines, et contre les trans. Ouais, c'est pas bien, ils sont contre l'IVG, machin. Mais c'est vachement bien de le faire sur votre canapé. Y a pas de problème. Continuez comme ça. Moi, j'ai juste envie de vous dire, il y a qu'un truc qui est vrai, c'est que les victoires, ça se gagne dans la rue. Et ouais. Ça, c'est valable pour tout. Rien que la semaine dernière, il y a eu 3 manifs, vous voyez. Une pour défendre l'IVG, une pour défendre les travailleurs, et une qui est passée totalement inaperçue, mais vraiment totalement inaperçue, pour défendre le code du travail. Eh ben, quand vous avez ces 3 manifs-là et qu'il n'y a personne, ben vous étonnez pas qu'en face, quand ils font plein de gens dans la rue, et vous avez un gouvernement, ouais, vous attendiez quand même pas à ce que ce soit des révolutionnaires qui disent « Oulala, moi j'ai envie d'être élu lors des municipales, donc je vais retirer mon texte de loi parce que je n'ai jamais voulu parler de genre. Non, c'est pas vrai. Moi, je voulais parler totalement d'autre chose. D'ailleurs, tiens, si on parlait des pissenlits. » Et ben voilà, ça c'est ce que
tu
vous aurez...
Tu vachement bien, François Hollande.
Pas du tout. C'est ce que vous aurez à chaque fois, parce que le vrai problème, c'est que si vous voulez des victoires et des avancées, il va falloir aller les chercher.
Eh oui.
Parce que si vous croyez que les gens avant vous, pour obtenir tout ce qu'on a dans la vie aujourd'hui de positif, ils sont restés devant Facebook, Twitter...
Confession intime. Du samedi après-midi, pendant que d'autres sont sous la pluie.
Et d'autres conneries comme ça. Et ben, je vais vous dire honnêtement, vous rêvez. À un moment donné, il faut aller les chercher, les avancées et les victoires. Donc, si vous, la première chose à faire pour aider les gens qui sont dans la merde, ben, c'est d'aller soutenir les avancées sociales et sociétales. Voilà, c'était mon coup de gueule du jour.
Bah c'était pas
j'avais envie.
Et moi je vais essayer de faire rapidos quand même parce que bon on va pas faire 3 heures d'émission hein.
Si allez, c'est parti.
Non là, je pourrais pas. Là honnêtement ce soir je ne peux pas. Deux brèves vite fait, enfin c'est plus des rendez-vous militants ou pas d'ailleurs, curieux aussi. C'est samedi 15 normalement à 15h à la Griffe, la librairie La Griffe qui est dans la rue Sébastien Griffe à Lyon. Il y a un débat en fait. Alors, c'est à confirmer, moi j'ai pas eu de confirmation mais en tout cas, je pense que enfin s'il a lieu, ça risque d'être très intéressant, c'est sur le coltan ou le coltan en fait dans le portable. Donc c'est comment sont extraits toutes ces formidables petites matières qu'on a partout sur nous en Occident ou du moins dans les pays riches et quelles conséquences sur les humains, sur l'environnement et tout ça parce que ça n'est pas anodin.
C'est en lien avec la guerre au nord Kivu qui est au nord du Congo.
Voilà. Ben voilà. Souvent les guerres ont un rapport avec les matières premières. Et le deuxième rendez-vous, c'est toujours le samedi 15 février à 15h au CEDRAT en fait. C'est pour fêter les 8 ans du CEDRAT, qui est donc le centre de ressources sur les alternatives sociales. Il y a pas mal de choses. Je sais qu'à 14h30, il y a une visite guidée qui est faite par Papy, de Papy Art et tout ça, sur la sérigraphie autour des ponts de la Croix-Rousse. Il y a une fresque du chant des alternatives, il y a des enquêtes ludiques, il y a un atelier chant, il y a un apéro-concert et tout ça c'est au 27 montée de la rue Saint-Sébastien dans le premier arrondissement de Lyon. C'est donc pour les 8 ans du CEDRAT et puis
c'est cool.
C'est déjà
fait plein de choses bien à faire.
C'est déjà bien.
Puis après, vous vous regardez bien s'il n'y a pas des manifs aussi, parce qu'il faut y aller.
Oui.
Bon, alors, vous n'allez pas aux manifs des réacs, hein, ami auditeur, toi qui nous écoutes, comme dirait Jean. Donc, tu ne vas pas voir les réacs. Non, tu es un prolétaire. Et tu vas avec un prolétaire.
Malheureusement, il va souvent, me tuer. Enfin, parfois, les prolétaires sont aussi des fascistes.
Ça arrive.
Donc.
Mais moi, je voulais juste faire un petit coucou quand même au King's Queer, parce qu'ils nous ont offert hier soir une soirée dantesque et mémorable. Alors, je tiens à dire quand même que, imaginez le tableau, la salle des fêtes de Trévoux. Oui, Trévoux. Cette petite ville placée...
Cette petite bourgade.
Au nord de Lyon.
Ah oui,
dans laquelle vous voyez arriver les King's Queer, Mademoiselle qui a fait un set hallucinant. Les casse-products qui ont fait quelque chose d'assez fou sur scène, voilà. Et puis quelques barrés, et puis des clowns un peu timbrés, et puis voilà. Et vous avez tout ça, et ça finit généralement bien, ça fait des nuits cool. Après, on a vraiment envie, je sais pas, de faire l'amour toute la nuit. Enfin bref, des trucs super bien. Et du coup, voilà, bah, c'était très très bien, et je voulais les remercier parce que bah, venir à Trévoux pour faire tout ça, ça fait un mois bientôt qu'ils sont à Trévoux, les Kings, ouais. Bah, ça fait plaisir. Quoi. Merci.
Effectivement. Et ben voilà. On va peut-être s'arrêter là.
Ouais.
Hein. Bah je sais oui. pas. On va peut-être.
Excusez-moi. Je reviens. Je sais plus quel CD c'est.
Ok. Vas-y. On va meubler. Et ben sinon, comment tu prévois ta semaine en fait? Sinon, Emma, toi.
Ça y est. Je crois que c'est bon. Dommage.
Dommage, alors que les auditeurs et auditrices étaient à l'affût de n'importe quelle info à concernant,
mon sujet,
mais bien évidemment. Et au sujet de Louli aussi, mais bon, il est pas là, on peut pas en parler.
Ah mais on lui fait un petit coucou quand
même.
Bah
oui, on lui fait un
coucou.
Mais
oui, on lui fait même des bisous.
C'est vrai qu'on peut aussi lui faire des bisous. Bon allez, vu que t'es pas là, on te les fait où tu veux. Il est pas là.
Moi pas.
C'est... Bon, on se quitte alors.
Bah oui, on va quitter sur...
Bonne semaine à tous. Hein. Allez. Non, pas là-dessus alors.
Sur
quoi? Sur de la musique.
Ouais.
Et c'est qui?
Ouais, on allait annoncer en
qui?
Fait.
Et c'est qui?
Sexy Sushi.
Mais ouais.
Et avec quel titre?
Oublie-moi.
Ah yes. Ouais. Forget me. Enfin bon, je crois qu'il est vraiment l'heure qu'on rentre.
Qu'on raccroche, ouais.
Qu'on raccroche.
Non, ouais. C'est toi qui raccroche en premier.
Alors,
non, c'est toi.
C'est toi qui raccroche.
Non, ami auditeur, ne raccroche pas. Écoute le bon son
le
qui
bon
va
son,
arriver
ouais.
Et les bandes continuent derrière et puis demain.
Que du bon son quoi.
Mais oui, oui, et puis aussi retrouver les Canu Info, enfin plein de choses, il se passe plein de choses sur Canu, il y a plein de bonnes choses.
Allez,
bonne semaine, bon
bisous.
Courage. Yes, des bisous.